Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit. Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n'est point assoupie, que c'est avec dessein et de propos délibérés que j'étends cette main et que je la sens. Ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni distinct que tout ceci. Mais en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé lorsque je dormais par de semblables illusions. Et m'arrêtant sur cette pensée, je vois manifestement qu'il n'y a point d'indices concluants ni de marques assez certaines par où l'on puisse distinguer nettement la veille du sommeil, que j'en suis tout étonné. Et mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors. Descartes, méditation première, 1647.
Au XVIIe siècle, Descartes, engagé dans une procédure de doute systématique, va remettre en question dans les méditations métaphysiques l'existence des objets sensibles, c'est-à-dire des objets que nous percevons par l'intermédiaire de nos sens. Descartes ne doute pas seulement de la conformité de nos perceptions des objets avec les objets eux-mêmes, mais bien de l'existence physique de ces objets comme condition nécessaire, indispensable à ces perceptions. Annie Bidbol Espériès, comment peut-on expliquer l'insistance et la précision avec laquelle Descartes met en doute l'existence des objets matériels autour de lui ?
La question ainsi posée se réfère au doute hyperbolique mis en œuvre dans la première des méditations métaphysiques. Ce doute englobe tout et particulièrement les choses matérielles. Pour Descartes, en effet, les sciences doivent être fondées pour qu'on puisse y établir quelque chose de ferme et de constant. Descartes pense particulièrement à la fondation de la science de l'étendue, à la physique, cette nouvelle physique qui a éradiqué les formes et les qualités de la physique scolastique. La fondation de la physique présuppose la coupure radicale entre la matière étendue et l'esprit. Descartes a publié en 1637 en français des essais précédés du discours de la méthode, dont le titre exact est « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». Dans le premier des essais scientifiques, la dioptrie, Descartes a traité de la relation de l'homme au monde grâce à une analyse des sensations, privilégiant l'étude anatomique, physiologique et optique des conditions de la vision et prenant en compte les erreurs des sens et leurs modalités de rectification. Puisque, comme le dit Descartes, toute la conduite de notre vie dépend de nos sens et que la vue est le plus universel et le plus noble, l'homme se définit d'abord, chez Descartes, par son statut de spectateur. Si l'anthropologie de Descartes accorde une place prépondérante à l'explication de la vision, c'est la conséquence de l'émergence d'un nouveau contexte scientifique. Descartes est l'héritier de la révolution astronomique des Copernic, Kepler et Galilée. Selon Descartes, l'homme est spectateur, l'homme est observateur d'un monde où les mouvements apparents des astres ne correspondent pas à leurs mouvements réels. Le monde visible n'est donc pas seulement, pour Descartes, le monde accessible par le sens de la vue, sens éventuellement amélioré par les télescopes dont parle la dioptrique, mais le monde réduit à des corps composés de matière divisible où l'entendement corrige les perceptions et erreurs des sens. Ce nouveau contexte scientifique explique l'intérêt de Descartes pour l'optique, la lumière et la vision. Le problème de la lumière et des sensations n'est pas seulement à la source de la dioptrique, il était déjà à l'origine du traité du monde que Descartes a renoncé à publier en raison de la condamnation de Galilée. Ce texte avait pour but de fonder une nouvelle théorie de la connaissance reposant sur la différence entre la sensation que nous avons, que Descartes appelle sentiment, et ce qui est dans les objets qui produit en nous ce sentiment. Descartes explique la perception en posant une radicale distinction entre les objets extérieurs et la représentation que nous en avons, entre l'image visuelle et son fondement objectif. Ces explications novatrices qui rendent compte d'une nouvelle situation de l'homme dans le monde doivent se trouver fondées par les méditations métaphysiques. Ces méditations procèdent à une mise en doute radicale que n'avait pas faite la quatrième partie du discours de la méthode. Cette mise en doute, elle est celle des sens, elle est celle du monde, elle est celle aussi des mathématiques et de la géométrie. Pourtant, connaissance certaine. Les méditations développent ces thèmes dans une perspective métaphysique avec invocation de l'hypothèse du dieu trompeur et la mise en cause de l'auteur de la machine du corps de l'homme.
Je supposerai donc qu'il n'y a non point un vrai dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerais obstinément attaché à cette pensée. Et si par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C'est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne point recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur, que pour puissant et rusé qu'il soit, il ne pourra jamais rien imposer. Descartes, Méditation première, 1647.
Descartes disposait-il à son époque de connaissances précises concernant le fonctionnement du système nerveux ?
Premièrement, Descartes avait des connaissances anatomiques très précises. À la fin des années 1630, Descartes s'est mis à étudier de façon très précise l'anatomie. Il a lu les meilleurs traités d'anatomie de son temps. Il a lu, comme il le dit lui-même dans sa correspondance, Vésal et les autres. Mais Descartes, c'est aussi quelqu'un qui a critiqué les connaissances anatomiques insuffisantes des médecins, notamment sur les nerfs. Il le dit de façon très ferme, très claire dans la Dioptrique. Et Descartes, c'est celui qui va vouloir promouvoir une nouvelle médecine. Et dans cette nouvelle médecine, l'étude des nerfs joue un rôle essentiel. Descartes est le premier à fournir une explication intéressante de l'explication de la douleur des amputés, de l'explication de la douleur des membres fantômes.
Donc, en fait, les membres fantômes, la douleur des membres fantômes, c'est quelqu'un qui, par exemple, a été amputé d'une jambe, a perdu sa jambe, et qui finalement a toujours l'impression que sa jambe est là, et que même, quelquefois, il ressent même une douleur dans cette jambe qui n'existe plus. Donc, finalement, on se demande d'où vient cette douleur.
Oui, c'est exactement cela, et Descartes, lui, prend l'exemple de cette jeune fille qui a été amputée de la main et de l'avant-bras et qui se plaint toujours de douleurs qu'elle aurait dans les doigts alors qu'elle n'a plus sa main. Mais les chirurgiens lui ont bandé l'avant-bras et la main de telle sorte qu'elle ignore qu'elle n'a plus ni ses doigts ni son avant-bras. Et cette jeune fille ne cesse de se plaindre de ses douleurs. Et Descartes explique que la douleur n'est pas dans le corps, elle est rester dans l'âme. Et il explique cela par le trajet que font les nerfs jusqu'à la glande pinéale. Et l'exemple des membres fantômes, l'illusion des amputés, c'est un exemple qui sert à prouver l'union de l'âme au corps dans la méditation sixième. Donc Descartes a des connaissances anatomiques certaines, précises, mais il va plus loin que les anatomistes du temps, il va plus loin que les chirurgiens. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir un traité d'anatomie du premier tiers du XVIIe siècle pour voir que dans l'explication de la vision, les médecins et les chirurgiens rejettent à la fin l'explication du nerf, des nerfs optiques. Ils ne savent pas quoi en dire. Ils ne savent pas du tout quel est leur rôle. Alors que Descartes, dès l'instant qu'il parle du mécanisme de la vision dans la dioptrique, mais c'est déjà le cas dans l'homme aussi, eh bien il commence par le nerf optique.
Et Descartes, à un moment, on fait aussi l'hypothèse qu'on pourrait intervenir plus en amont de l'organe normalement qui est censé être là. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait donner la sensation que le pied existe en intervenant dans le nerf,
oui.
Plus en amont entre le cerveau et le pied normalement. En fait, si on intervenait au milieu, entre les deux, on pourrait dire au cerveau « le pied est là » alors qu'en fait, le pied n'est pas là.
Descartes est absolument convaincu de l'importance décisive du système nerveux. Vraiment, l'originalité, la spécificité de Descartes est bien dans cette manière qu'il a d'insérer les nerfs dans l'explication du sens de la vue et d'expliquer aussi ce qui fait l'unité de l'homme.
Donc en fait, on pourrait dire que les connaissances de Descartes sur le système nerveux, en quelque sorte, ont généré chez lui cette idée que l'on pouvait réellement se retrouver déconnecté du monde extérieur, puisque une stimulation du système nerveux suffirait à provoquer en nous des représentations ou la sensation de quelque chose qui existe, alors que finalement, elle n'existe pas à l'extérieur.
On pourrait dire cela, mais dans les méditations métaphysiques, ce n'est pas exactement le point de vue qui est pris par Descartes.
Le point de vue qui est pris par Descartes, c'est
de dire que une fois dans sa vie, semel in vita, eh bien, il faut se mettre à douter de tout. Et ça, c'est fondamental. Douter de sa propre personnalité, douter du monde extérieur, douter même des vérités mathématiques. Et ce point est absolument fondamental. Mais il dit bien dans l'abrégé des méditations que les gens de bon sens ne font jamais cela. C'est une expérience limite, pourrait-on dire, une expérience limite qui a pour objet, qui a pour but de fonder cette physique nouvelle qui présuppose toujours une distinction entre l'étendue et la pensée. Et c'est, s'il met en cause tout ce à quoi il pouvait croire, s'il ne cesse de dire qu'il faut détacher l'esprit des sens, c'est justement pour arriver à trouver un point fixe, ce point fixe qui va être le cogito qui est une idée extraordinairement riche et qui va permettre justement de donner le fondement métaphysique à la physique nouvelle qu'il crée en fait.
Moi donc, à tout le moins, ne suis-je pas quelque chose? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Descartes, 1647, seconde méditation.
Descartes était-il le seul à développer ses réflexions au XVIIe siècle ?
Non, Descartes n'est pas le seul au XVIIe siècle. Il s'inscrit dans un courant du XVIIe siècle qui est celui du théâtre dit baroque. Le thème de la vie est un songe, c'est un thème que l'on trouve dans toute l'Europe du XVIIe siècle. On le trouve chez Calderon avec La vie est un songe, bien sûr. On le trouve chez Shakespeare à de nombreuses reprises, mais notamment dans Le songe d'une nuit d'été. Et on le trouve en France, dans une pièce de Corneille, l'illusion comique, par exemple. Donc c'est un thème extraordinairement banal et un thème qui est relayé par le courant médical qui traite des mélancoliques, de ces gens qui ont perdu la conscience de leur propre corps.
If we shadows have offended, think but this and all is mended, that you have but slumbered here while these visions did appear, and this weak and idle theme, no more yielding but a dream.
Écoute, puisqu'il faut en faire confidence. Non ce que mon esprit a vu confusément dans un rêve sans suite et plein d'extravagance, mais ce qui m'a frappé les yeux sensiblement, qui m'est présent encore comme un événement rempli de certitude où règne l'évidence, et dont j'ai retenu la moindre circonstance. À la cour de Pologne, en un palais brillant, ô souvenir amer d'une gloire trompeuse, j'ai cru me voir en m'éveillant, J'étais alors vêtu superbement, environné d'une foule nombreuse qui me servait avec empressement. Je me souviens qu'au fort de mon étonnement, je t'ai vu le premier me rendre ton hommage, et fléchissant le genou devant moi, me déclarait que j'étais fils du roi, et que son trône était mon héritage. Sigismond, acte 3, scène 2 de La vie est un songe, Calderon, 1636.
And Robin shall restore amends.
Descartes finira par retrouver le chemin de la certitude concernant l'existence des objets matériels, après avoir prouvé l'existence de Dieu et sa véracité. Écoutons Descartes énoncer les arguments qui lui permettent de finalement distinguer le rêve de l'état de veille.
Car à présent, j'y rencontre une très notable différence. En ce que notre mémoire ne peut jamais lier et joindre nos songes les uns aux autres et avec toute la suite de notre vie, ainsi qu'elle a coutume de joindre les choses qui nous arrivent lorsque nous sommes éveillés. Et en effet, si quelqu'un, lorsque je veille, m'apparaissait soudain et disparaissait de même, comme font les images que je vois en dormant, en sorte que je ne puisse remarquer ni d'où il viendrait, ni où il irait, ce ne serait pas sans raison que je l'estimerais un spectre ou un fantôme formé dans mon cerveau et semblable à ceux qui s'y forment quand je dors, plutôt qu'un vrai homme. Mais lorsque j'aperçois des choses dont je connais distinctement et le lieu d'où elles viennent, et celui où elles sont, et le temps auquel elles m'apparaissent, et que sans aucune interruption je puis lier le sentiment que j'en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les perçois en veillant, et non point dans le sommeil. Et je ne dois en aucune façon douter de la vérité de ces choses-là, si après avoir appelé tous mes sens, ma mémoire et mon entendement pour les examiner, il ne m'est rien rapporté par aucun d'eux qui ait de la répugnance avec ce qui m'est rapporté par les autres. Car de ce que Dieu n'est point trompeur, il suit nécessairement que je ne suis point en cela trompé. Descartes, méditation 6e, 1647.
Pierre Pellegrin, est-ce qu'on retrouve dans la philosophie antique l'équivalent du doute cartésien concernant l'existence physique des objets à l'extérieur de nous ?
Il ne me semble pas, pour plusieurs raisons. D'abord, comme préliminaire, je vous dirais qu'il y a dans la philosophie grecque, de ce point de vue, du point de vue qui vous intéresse, une grande séparation, dichotomie à faire entre des gens qui, comme... D'un côté, des gens qui, comme Aristote, les stoïciens, les épicuriens, des grandes écoles hellénistiques, pensent que la perception sensible, étant la base de toute notre connaissance, est fiable, et donc il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence du monde extérieur que nous percevons par les sens. Aristote pense même, et d'ailleurs pas Aristote seulement, les épicuriens et les stoïciens, une moindre mesure, tous ces gens-là pensent que notre perception est pure et toujours vraie. Et donc, ne pense pas même à poser le problème de la réalité du monde extérieur. En face d'eux, il y a une autre tradition qui, elle, au contraire, se méfie de la perception. Alors, si on devait trouver l'équivalent de ce que vous venez de dire à propos de Descartes, c'est-à-dire l'hypothèse, au moins l'hypothèse, de l'inexistence du monde matériel, ça serait dans cette tradition-là qu'on la trouverait.
Mais alors, est-ce que finalement, les philosophes grecs n'ont pas plutôt mis en cause la valeur de la connaissance apportée par les sens plutôt que l'existence même de ces objets ? Et de quelle façon l'ont-ils fait, finalement ?
C'est ça. Cette deuxième tradition, ce sont des gens qui mettent en cause la valeur et l'exactitude de la connaissance sensible. Cette tradition, on va distinguer, si vous voulez, dans cette tradition, des gens très différents, comme les atomistes, les sophistes, les platoniciens, les sceptiques. Et il me semble, effectivement, comme vous l'avez justement dit, ces gens-là se concentrent sur la valeur de la connaissance et non pas sur l'existence du monde extérieur. Donc prenons-les un par un, si vous voulez.
Donc par exemple, les atomistes représentés par Démocrite, de quelle façon formulent-ils la question ?
Eh bien, les atomistes, représentés par Démocrite et son maître Leucippe, donc c'est des gens qui sont avant Platon, au 5e siècle avant Jésus-Christ, pensent que les apparences sensibles ne sont précisément que des apparences trompeuses, puisque l'être véritable, comme le dit Démocrite dans une formule fameuse, est constitué d'atomes et de vides. Mais cet atome et ce vide, ils existent. Ils existent. Il ne s'agit pas de remettre leur, leur existence en cause. Donc, simplement, nous en avons une vision déformée à travers nos sens. Et grâce à une sorte d'assaise intellectuelle, nous retrouvons derrière les apparences sensibles l'être vrai. De même pour Platon. Platon pense que dans la fameuse théorie des idées ou des formes, Platon pense que la réalité véritable se situe au niveau suprasensible. Il n'empêche qu'il n'exclut pas le sensible de l'existence pour autant. Le sensible est dérivé, le sensible est causé, le sensible a son existence par participation, comme on dit, aux formes intelligibles. Il n'empêche que jamais, je ne crois pas qu'il ait dit que le sensible n'existait pas ou qu'il ait même formulé cette hypothèse. Quand il dit que le sensible ressemble à des ombres, personne ne pense que les ombres n'existent pas, même s'ils ne sont que l'ombre de quelque chose.
Alors le sensible, finalement, donc, existe, même s'il est moins réel que la forme intelligible à laquelle il correspond.
Oui, et dont il dépend.
Et dont il dépend.
Oui. Et il me semble, de même, les sophistes, la chose est très compliquée pour interpréter la fameuse formule de Protagoras selon laquelle l'homme, ou l'être humain d'ailleurs, anthropos, est la mesure de toute chose. D'abord, c'est très difficile à interpréter. Tout le monde, dans l'Antiquité, l'a interprété comme un relativisme. Les choses sont relatives à moi, mais le relativisme ne gomme pas l'existence du sensible, même s'il la relativise, s'il la fait dépendre d'un sujet qui la juge et en quelque sorte la dispose dans l'espace physique et social.
Par exemple, si on dit qu'on ne peut pas connaître la nature réelle de la pomme parce que je vois une fois la pomme, une fois verte et puis une fois vieillie, jaune, oui. Donc finalement je ne peux pas arriver à savoir si la pomme est en soi verte ou jaune. Finalement, je ne doute pas au moment où je la vois qu'elle soit bien là en face de moi.
Oui, il y a une pomme. Il y a une pomme. Oui. Et alors, il me semble que la pointe extrême d'une éventuelle négation de la réalité du monde extérieur, on pourrait la trouver chez ces gens qui sont précisément des extrémistes et qui sont les sceptiques. Alors, les sceptiques, il y a plusieurs écoles sceptiques dans l'Antiquité. Il y a d'abord les académiciens sceptiques. Vous savez que l'Académie de Platon avait tourné au scepticisme dès le 3e siècle avant Jésus-Christ avec Arcésilas. On va les laisser de côté, ces gens-là, parce que ces gens-là, leur scepticisme consistait surtout à dire que nous sommes sûrs de rien. Mais comme vous le voyez, eh bien, ça ne met pas en cause l'existence des choses dont nous ne sommes pas sûrs. Par contre, le courant pur et dur du scepticisme, c'est le scepticisme pyrrhonien, qui est issu, au moins mythiquement, de cette grande figure qui est Pyrrhon, qui est un philosophe du 3e siècle avant Jésus-Christ, un peu avant les stoïciens et les épicuriens. Bon. Et alors, il y a eu une renaissance du pyrrhonisme au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, et on a la chance d'avoir gardé les œuvres d'un médecin qui s'appelle Sextus Empiricus, qui est en cours de traduction en français, qui lui nous donne une vision très exacte du scepticisme pyrrhonien. La base du scepticisme pyrrhonien, ce n'est pas que je doute que je puisse connaître les choses, c'est que je trouve autant d'arguments pour une thèse que contre cette thèse, pour l'existence des dieux que contre, et que donc je suspends mon jugement, ou je suspends mon assentiment. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de dire les dieux existent ou n'existent pas, parce que précisément, j'ai autant d'arguments pour que d'arguments contre. Et ces gens-là, donc, c'est ce qu'ils appellent la force égale, isosthenia en grec, des arguments qui les mènent à la suspension, à l'époque, n'est-ce pas ?
D'accord.
Et alors, il est remarquable que ces gens aient employé cette matrice argumentative pour tout, à propos de la morale, à propos de la physique, à propos de la logique, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire que ça est plus vrai que ça, on ne peut pas dire que les dieux existent pas plus qu'ils n'existent pas.
Donc, a fortiori, on pourrait aussi dire, on n'a pas plus d'arguments pour dire que le monde existe que pour dire que le monde n'existe pas.
Alors, c'est ça. Si des gens avaient dû dire ça, ça aurait été eux.
D'accord.
Je n'ai pas plus d'arguments pour dire que le monde extérieur existe ou que le monde extérieur n'existe pas. Or, dans les textes que nous avons, je n'ai pas vu les sceptiques dire cela. Que conclure ? C'est toujours dangereux de conclure par le silence. Hein, les arguments en silencio, c'est toujours dangereux. Mais il n'empêche que moi, je suis tenté d'en conclure que l'hypothèse de l'inexistence du monde extérieur ne fait tout simplement pas partie du paysage philosophique et intellectuel grec. Autrement, les sceptiques se seraient précipités là-dessus pour, comme je le disais, l'inclure dans leur forme argumentative.
A whale song. But where's it coming from?
Well, my lad, you've come aboard then. You look as if you wanted a breath of sea air.
I want to fish.
Well, you've got a lovely day for it.
Premier épisode de cette histoire du réel en sciences proposée par André Pic, avec aujourd'hui Pierre Pellegrin, philosophe et historien de la philosophie antique, et Annie Bidbol-Espériès, philosophe et historienne de la médecine.